Bonjour à chacun. Ce matin, nous allons réfléchir ensemble à la vision des ossements décrite par le prophète Ézéchiel au chapitre 37 de son livre. Et nous réfléchirons aussi à la vie retrouvée. Nous sommes le dimanche 7 juin. Je lirai donc dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 17. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'Esprit et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. » L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, prends une tablette de bois et grave dessus pour Juda et les Israélites qui en font partie. Puis tu prendras un autre morceau de bois sur lequel tu inscriras pour Joseph. Il représentera Éphraïm et tous ceux de la communauté d'Israël qui en font partie. Ensuite, tu joindras les deux morceaux l'un à l'autre pour n'avoir qu'une pièce unique, en sorte que les deux morceaux n'en fassent qu'un dans ta main. » Parole du Seigneur. La vision d'Ézéchiel, terrible vision d'ossements desséchés, vision qui ne peut nous paraître qu'incroyable, car enfin c'est un peu gros ce récit qui pourrait n'être qu'un cauchemar finalement, le produit de l'imagination d'un homme dont l'âme est torturée par ce qu'il voit, par les révélations qu'il a reçues du Seigneur, et qu'il doit transmettre au peuple. Mais que le peuple à l'époque d'Ézéchiel ait vu ou pas une telle vallée d'ossements sous ses yeux, toujours est-il que nous, nous subissons la même image quand on nous informe de la découverte d'un tel charnier dans un pays ou dans un autre. Cette scène représente la mort et l'horreur, cette mort qui s'est faite encore plus proche de nous ces derniers mois et qui rôde encore. Que répondrions-nous si quelqu'un nous demandait, alors que nous annonçons l'espérance de la vie éternelle, est-ce que vous voyez la vie dans tout ce carnage? Je me souviens avoir visité le camp du Struthof dans les Vosges, il y a bien longtemps déjà. Il ne restait pas beaucoup de bâtiments à ce moment-là. Je trouve que les Vosges sont une belle région, certainement, mais tout ce qui s'est passé en ce lieu que j'ai visité pèse si lourd, avec ces milliers de morts, que tout le reste est éclipsé. La mort, la tragédie finale font qu'il devient impossible en certains endroits de remarquer la beauté de l'environnement et même de garder, ne serait-ce qu'un peu, le sens de l'espoir. Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Eh bien non, non, ils ne le peuvent pas. Du point de vue humain, les os ne peuvent pas revivre. La mort et la faim, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Même avec les merveilles de la technologie médicale d'aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse être fait pour donner vie à ce qui est mort. Ézéchiel voit des squelettes, beaucoup, beaucoup de squelettes. Le nombre d'ossements semble indiquer une sorte de massacre à grande échelle ou de catastrophe. Ces os sont desséchés, ces personnes sont donc mortes depuis longtemps. Ces os peuvent-ils vivre? C'est une évidence, ils ne le peuvent pas. Le début du texte nous dit que le Seigneur fait visiter ce lieu terrible à Ézéchiel. Ils vont, ils viennent, ils reviennent, et Ézéchiel ne voit pas la vie. Ces os pourront-ils revivre? La question même est ridicule, si ridicule qu'Ézéchiel comprend bien qu'il s'agit là avant tout d'une question rhétorique, à moins qu'ils ne comprennent même pas cette question-là. C'est peut-être pourquoi il renvoie la balle dans la cour de l'Éternel. « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Devant cette scène incroyable, que pouvait-il faire d'autre que renvoyer la balle dans le camp d'en face? S'il n'y a rien qui puisse y être ajouté, à quoi sert-il de parler? C'est à Dieu de fournir la réponse à sa propre question. S'il y a quelque chose à faire avec ces ossements, Dieu doit être capable de le faire. Avec Ézéchiel, nous retenons notre souffle pour voir ce que le Seigneur dit en réponse à sa propre question. Le mot « souffle » apparaît une dizaine de fois dans ces versets. En clair, il est le maître mot de ce contexte. On le trouve quand le Seigneur dit à Ézéchiel de prophétiser en s'adressant aux ossements. C'est alors que le souffle de vie viendra en eux. Étrange commandement du Seigneur. Ézéchiel doit prêcher un sermon à des squelettes. Si jamais vous deviez prêcher à des morts, pas un seul entendrait. Mais Ézéchiel doit accomplir un signe prophétique des plus étranges. Pourtant, ce spectacle est moins ridicule qu'il n'y paraît de prime abord. Au verset 11 de ce passage, nous entendons le Seigneur citer un sentiment qui avait circulé parmi les exilés à Babylone. Jérusalem étant détruite, le temple en ruine, de nombreux enfants et leurs proches morts, il a semblé à la plupart des Israélites qu'ils vivaient la fin du monde. Et ils disaient « Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée ». Les Israélites sont devenus d'une certaine manière des morts vivants. Humainement parlant, au moins, tout était vraiment perdu. Et puis on finit par distinguer la voix des prophètes. Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie et les autres déclarant que Dieu reste souverain et qu'Israël est son peuple. Il n'y a que Dieu pour redonner la vie. Car nous sommes impuissants face à la réalité de la mort, et il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. C'est ce que je disais il y a quelques minutes lorsque j'ai parlé de la situation ridicule d'Ézéchiel, debout pour délivrer un sermon à des ossements, tout en affirmant que ceci n'est peut-être pas aussi étrange ou inhabituel ou ridicule que nous pourrions le penser de prime abord. Je vous parle aujourd'hui, et nous savons tous au moins une chose, tous, nous allons mourir un jour. Et peut-être nous posons-nous la question de la signification de tout cela. Nous ne pouvons pas fonder notre espérance en tant que croyants sur ce que nous voyons dans la vie telle que nous la connaissons. Nous ne pouvons pas attendre que la science ou la médecine trouvent pour nous un moyen d'échapper à la mort. Non, l'espérance que nous avons prend en compte le fait de la mort qui finit par faire partie de la vie. Au moins dans l'Ancien Testament, il est clairement établi que la mort était la fin de tout, corps et âme. Mais dans le Nouveau Testament, il devient clair que selon le plan de Dieu, nos âmes survivent à la mort. Si la grâce de Dieu n'œuvrait pas, la mort serait la fin pour toujours. Mais le Seigneur est le Dieu de la résurrection. Ses ossements revivront-ils? Les tendons seront-ils réparés? La chair repoussera-t-elle? Si le Seigneur n'y travaille pas lui-même, le souffle de la vie ne reviendra pas. Voilà donc le domaine de la foi qui s'empare de tout cela. Alors que tous les gens voient la mort comme une frontière que l'on traverse sans pouvoir en revenir, nous, chrétiens, disciples du Seigneur, nous voyons peut-être bien une frontière, mais aussi une vie qui se prolonge. Ces ossements revivront-ils? Est-ce que nous revivrons? Ézéchiel répond, « Toi seul, Seigneur, tu le sais. » Et le Seigneur dit, « Oui, ces ossements revivront. » Et c'est pourquoi Ézéchiel prêche ce message à ces gens qui sont morts et qui sont autour de lui, à ces ossements qui dessèchent au soleil brûlant de la vallée, mais aussi à tous ceux qui sont dépourvus d'espérance et se sentent séparés de Dieu. Ces ossements sont si nombreux qu'ils ne sont peut-être pas le résultat d'une seule bataille d'Israël. Ézéchiel voit tout Israël, hommes, femmes, enfants, qui ont vécu dans le passé et à présent sont morts. Et la promesse de Dieu est de les ramener à la vie pour que chacun comprenne que Dieu est Dieu et qu'il est fidèle à ceux qui croient en lui. Je me garderai bien d'établir une doctrine de la résurrection à partir de ce seul chapitre, mais nous pouvons tout de même y voir clairement présenté une espérance de la résurrection. La tombe n'est pas la fin de tout. Le Seigneur n'est pas vaincu par la mort, il a le dernier mot. Il ne sera pas sans son peuple, et nous ne serons jamais sans notre Dieu. Et comme Paul l'écrira des siècles après Ézéchiel, pour l'instant nous voyons les choses confusément. Mais le message des prophètes nous donne un aperçu suffisant pour nous faire comprendre que ce qui est à venir est glorieux. Il y a une nouvelle vie pour le corps et pour l'âme. Aujourd'hui, contrairement à Ézéchiel et ses auditeurs, notre espérance repose sur la présence de celui qui était mort et qui est vivant, maintenant et à jamais, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans notre monde toujours délimité par la frontière de la mort, la question est encore posée au peuple de Dieu. Ses ossements revivront-ils? La réponse du Christ, qui est lui-même la résurrection et la vie, l'alpha et l'oméga, sa réponse à cette question est simple, elle est claire, elle est sans équivoque. Elle évoque l'espérance. Oui, ses ossements revivront. Le Dieu souverain en Jésus-Christ, notre Seigneur, a parlé. À l'époque d'Ézéchiel, le peuple était divisé. Il adorait des idoles. Il avait péché, il était spirituellement mort, et le Seigneur, dans sa miséricorde, et à cause de sa fidélité, voulait lui redonner la vie. Ainsi, le prophète nous transmet-il ces mots maintenant. « Fils d'homme, prends une tablette de bois et grave dessus, pour Judas et les Israélites qui en font partie. Puis tu prendras un autre morceau de bois sur lequel tu inscriras « pour Joseph ». Il représentera Éphraïm et tous ceux de la communauté d'Israël qui en font partie. Ensuite, tu joindras les deux morceaux l'un à l'autre pour n'avoir qu'une pièce unique, en sorte que les deux morceaux n'en fassent qu'un dans ta main. Visiblement, les peuples séparés devaient être réunis par la volonté du Seigneur. Et la question est encore d'actualité. Il y a de nombreux textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'unité. J'en cite quelques extraits, tous dans les épîtres de Paul. Un seul corps, un seul esprit, une même âme, une même pensée. Voilà ce que nous sommes. Aimez-vous les uns les autres? Encouragez-vous les uns les autres? Exhortez-vous les uns les autres? Supportez-vous les uns les autres? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement. Tout un programme. Et j'aurais pu citer, bien sûr, la prière sacerdotale de Jésus dans l'évangile de Jean. Le Seigneur ne peut pas se satisfaire d'une division qui s'est installée dans son Église, que l'on considère l'Église dans son universalité ou bien dans sa particularité. Je parle là de l'Église locale. Eh bien, dans l'histoire du christianisme, on a compris que rien n'a pu aboutir à ce qui pourrait ressembler à quelque chose qui serait l'Église telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire parfaitement unie. Rien. Ni la ruse, ni la violence, ni le retour à un point quelconque du passé, ni l'indifférence, ni le silence, ni l'atténuation des différentes sensibilités théologiques. Nous sommes en chemin, ni totalement unis, ni totalement séparés. Toutefois, si le Seigneur a décidé que son Église devait être une, qui pouvons-nous? Que pourrions-nous faire contre, si je peux oser une pareille question? Le Seigneur ne nous demande pas notre avis. Pour lui, la réalité est là. Il y a un seul corps. Dans la vie, on rit quand quelqu'un se prend une porte dans la figure. Au cirque, on attend que le dompteur se fasse manger. Dans l'Église, on ne peut pas se réjouir de l'erreur de l'autre, ni la guetter et la considérer comme une victoire personnelle. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre situation, ni nous contenter de vivre en ignorant cordialement ceux avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord. Le Seigneur nous demande expressément d'être les serviteurs les uns des autres, chacun avec le don qu'il a reçu, en bon attendant des grâces diverses de Dieu. Dans la reconnaissance pour l'unité donnée à Christ, dans la vigilance et la repentance, en écoutant la volonté de Dieu, eh bien l'Église peut servir son Seigneur dans l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Alors je peux comprendre que nous trouvions la tâche difficile, mais c'est ainsi que nous manifesterons l'espérance d'une vie renouvelée par le souffle de l'Esprit et que la prière des chrétiens prendra une forme telle que chacun pourra prononcer avec tous les autres un véritable « Amen » commun.